C'est pas pour dire. Une émission de la compagnie La Lune Rousse, présentée par Charles Cécile. Au XXIe siècle, qu'est-ce qui pousse encore les gens à dire ou à écouter des contes, des poèmes, des épopées, des histoires de bonnes femmes? Quand les déesses s'appellent Nintendo et que Midas change votre peau, autant du jet lag, des Mastercard, de la com, de la pub, au XXIe siècle quoi. C'est pas pour dire, mais toutes ces histoires, à quoi ça sert? C'est pas pour dire, une enquête de Charles Cécile au pays des conteurs. I have a dream.
Il était une fois un prince qui adorait les jeux de hasard, les jeux de dés, les jeux de cartes, les paris. Il passait sa vie à jouer et jouer pour de l'argent. Mais vous savez comment c'est les jeux? Des fois on gagne, des fois on perd. Et là, ça faisait tellement de temps qu'il perdait, que c'était comme si la chance l'avait complètement abandonné. Et comme il jouait de l'argent, il devait de l'argent à tellement de gens et tellement d'argent qu'il voyait venir le moment où il devrait vendre le château et se mettre sur les routes avec son père et sa mère comme des mendiants. À cette époque de sa vie, le prince était très tourmenté. Il marchait pendant des heures dans la campagne en ruminant de sombres pensées. Et puis un jour qu'il marchait comme ça, il a vu venir vers lui un cavalier. Un cavalier tout de noir, vêtu, monté sur un cheval noir. Le cavalier s'est arrêté à côté de lui. Et je ne sais pas ce qu'il lui a dit, mais le prince s'est mis à lui raconter tous ses malheurs. Et le cavalier lui a dit, je peux t'aider. Mais non, tu ne peux pas m'aider, toi aussi tu vas me prêter de l'argent, je vais te devoir de l'argent, personne ne peut m'aider, je suis foutu, c'est... Je peux t'aider. Je peux faire en sorte que la chance soit toujours à tes côtés. Mais personne ne peut faire ça, la chance toujours à mes côtés, personne. Moi je peux. Mais ça a un prix. Mais dis-moi, je suis prêt à payer n'importe quoi pour ça. Pas grand-chose. Le jour où tu verras dans ton écurie un cheval que tu ne connais pas, tu montes dessus et tu viens me rejoindre al castel de Iras y no volveras, au château de tu y vas et tu n'en reviens pas. C'est tout, a dit le prince, c'est tout. Ils ont pactisé. Le cavalier est parti et le prince est rentré au château.
Bonjour, c'est Charles Cécile. Era una vez, il était une fois, once upon a time. C'est ainsi que commencent les contes merveilleux. Et l'on passe de l'autre côté, dans ce lieu où les chevaux parlent et volent, où les bêtes ont sept têtes. Et à propos de grenouilles et d'animaux étranges, ou de poissons des profondeurs, nous voici sur la bête de Seine. Quelquefois, en effet, le plateau de la bête de Seine, qui est la petite Seine nomade de la compagnie La Lune Rousse, la bête de Seine se transforme en plateau radio, et c'est aujourd'hui le cas. En plein air, au pied des immeubles, nous lançons ce jour en public une discussion à propos d'une famille de contes qu'on appelle les contes merveilleux. Pour cela, deux conteuses installées sur le bout de la langue de la bête de Seine.
Aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement avec la présence de Claire Garrigue, qui vient de raconter dans ce parc ensoleillé de Saint-Herblain. Claire Garrigue, qui est une Normande, mais aux origines très riches, très sud.
Très sud, oui.
Très sud.
Du côté de la Catalogne.
De la Catalogne. Et Anne-Gaëlle Goduchaud, qui a des origines aussi très, très riches. Et du côté de la Vendée.
Voilà. Non, ouais. Une partie du côté de la Vendée, une partie du côté de la Catalogne, et puis je suis née en Afrique.
C'est ma cousine.
C'est ça.
D'accord. T'es née en Afrique, moi et, en Corée du Sud.
Toi, t'es née en Corée du Sud et moi en Afrique de l'Ouest, voilà, c'est ça. Bien, c'est comme donc, ça qu'on fait des conteuses peut-être.
Avec Claire Garrigue et puis Angel Goduchaud, on va s'intéresser aujourd'hui aux contes merveilleux, puisque les deux conteuses professionnelles qu'elles sont s'intéressent à ce domaine-là depuis longtemps. On peut dire que vous avez raconté toutes deux depuis des années des contes merveilleux.
Oui, oui. 20 ans.
Claire.
Une bonne vingtaine d'années des contes merveilleux.
Ouais, je pense qu'à force de dire 20 ans, ça doit commencer à faire presque 30, tu crois pas?
Moi, non, parce que j'avais une vie avant. Où j'écoutais les histoires.
D'accord. Bien, alors, le conte merveilleux, comment on pourrait le définir? Moi, j'ai regardé un petit peu dans les explications sur le conte merveilleux. Le merveilleux, c'est ce qui surprend, ce qui étonne, qui semble inexplicable. C'est le fantastique dans un sens positif et admirable. Voilà ce qui se dit dans des dictionnaires très
alors, on pourrait complet. Dire qu'il y a plein de genres de familles. Enfin, il y a plein de familles de contes. Le conte merveilleux, c'est une des familles.
C'est une des familles.
C'est celui aussi, tu me dis si je dis des bêtises. C'est celui qu'on appelle le conte de fées, non? Les contes de fées, d'ogres, les contes où il y a de la magie, oui.
De la magie, des choses extraordinaires, merveilleuses.
Ouais.
Le même dictionnaire, d'ailleurs, dit... L'existence d'un univers, le conte merveilleux parle de l'existence d'un univers échappant aux lois naturelles.
Ah. Aux lois naturelles prosaïques, ouais. Pragmatiques.
Aux lois naturelles de la physique...
Même avant quantique.
Avant la physique quantique.
Alors j'aimerais que vous nous donniez quelques exemples des titres, d'ailleurs que les gens connaissent pour la plupart.
Je ne sais pas, vous connaissez quoi comme conte, vous?
Conte merveilleux.
Le public est là.
Barbe bleue, c'est un conte merveilleux?
Ben, dans certaines formes.
Ouais, mais dans des formes inconnues. Ouais. Assez inconnu. Sinon, on appelle ce conte, on le placerait plutôt dans la famille des contes d'avertissement. C'est ça, ça sert à avertir que dans la vie, il y a des sales types quand même. Quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des versions merveilleuses de ce conte. Ouais. Et sinon, c'est... je sais pas.
D'autres exemples hein, qui seraient connus de vous.
Hein? Andersen?
Oui, il y en a.
Ouais, il y a des contes merveilleux chez Andersen. Cendrillon,
Cendrillon.
Oui. Oui. La Blanche-Neige, c'est sûr. Blanche-Neige. Le Petit Poucet, c'est sûr. La Belle au Bois Dormant.
Bon,
la Fille aux Mains Coupées.
Dans les contes merveilleux, il y a un certain nombre d'ingrédients indispensables, non? Alors, est-ce qu'on pourrait essayer de décrire ce qu'un conte merveilleux, en général, contient?
Alors, ce qu'un conte merveilleux contient Tu vois ça, toi?
Non,
tu ferais ça
en fait,
comme
je
ça?
Dirais pas ça comme ça, non. Non, je dirais qu'on reconnaît un conte merveilleux à sa saveur et au fait qu'on est quand même dans une chose étrange, merveilleuse, en effet, et qu'on sent très bien avec ce type de conte que ça parle de quelque chose qui se passe en dessous, comme un courant souterrain, qui se passe en dessous de la conscience, ou en dessous ou au-dessus, je ne sais pas d'ailleurs, à côté, derrière... que ça vient nous parler de les grandes forces qui nous traversent.
Les grandes forces qui nous traversent. Oui, pour moi aussi, c'est un conte qui a un langage poétique et symbolique et du coup qui s'adresse à cette partie-là de la vie. Parce que dans la vie, il y a aussi la poésie, c'est pas en dehors de la vie et symbolique non plus, en fait. Et donc ça vient s'adresser à cette partie-là de la vie. Si on s'adresse que à la partie pragmatique, et ben c'est comme si on réduisait la vie à quelque chose de pragmatique, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres choses. L'amour, c'est pas pragmatique, et pourtant, ça fait partie de la vie. Donc il y a quelque chose, ça s'adresse à cette autre composition de notre être, en fait.
Et c'est vrai que dans les contes merveilleux, ben, quelquefois, il y a... des forêts, des princes, des dragons, des princesses, des méchantes mères, des enchanteurs, des chevaux qui volent et tout ça. Et on pourrait dire, d'une certaine manière, que tout ça, c'est des personnages, c'est vrai, mais pas seulement. C'est comme si on parlait de partie de nous. C'est à l'intérieur de nous, comme dans un rêve. La forêt, c'est nous. La méchante mère, c'est moi. Mais le cheval aussi, et aussi le prince, et aussi la princesse.
Un petit peu moins près.
C'est pas comme ça ?
Un peu moins.
C'est parce que comme j'ai pas de voix, j'essaye de compenser avec le micro.
D'ailleurs, je crois, Claire Garrigue, que tu, dans tes contes, quand tu es avec certains publics, tu présentes oui. un petit peu les choses, tu dis, voilà, qu'est-ce que tu leur dis ?
Ben oui, je raconte beaucoup à domicile, chez des particuliers, et donc du coup, les gens qui viennent, c'est les amis de la famille, c'est des voisins, c'est souvent des gens qui n'ont pas du tout de familiarité avec le conte, qui n'en ont jamais ni lu, ni entendu, et du coup, je donne une petite clé, c'est ça, j'aime bien donner cette petite clé, dire que le conte, c'est une aventure, mais on peut le voir aussi comme une seule et unique personne, et tout ce qui se passe dans le conte, chaque personnage, chaque endroit, c'est comme une force qui est à l'action à l'intérieur de nous, en fait. Et c'est tout le cheminement de ces forces en nous qui vont arriver jusqu'à quelque chose d'harmonieux, puisque c'est ce que vise l'aboutissement du conte merveilleux, hein, qui est souvent symbolisé par le mariage, le couronnement, mais c'est le mariage de toutes les parties de nous, c'est le couronnement de notre être, on va dire, dans toute sa royauté intérieure. Il y a quelque chose aussi comme ça.
Et c'est vrai que si on regarde que l'aspect, disons, prosaïque, on dirait qu'est-ce que c'est que ces histoires qui prônent le mariage, le fait de faire beaucoup d'enfants, et puis les relations forcément entre un homme et une femme, et voilà, enfin bon, ça va. C'est parce que ça parle d'autre chose. Ça parle d'autre chose, on est vraiment dans la métaphore.
Ça parle de l'intérieur de soi-même, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur.
Moi, je le vois comme ça, en tout cas.
Oui,
moi aussi.
Bon. Et c'est pour ça que je raconte ces contes-là.
Et hier, on parlait avec le mari, le chéri, je ne sais pas comment tu dis, c'est ton mari, ton chéri.
Mari, mon amoureux.
Qui nous disait... Mais en fait, quelquefois, je vais écouter des conteurs, et quand les conteurs ne croient pas que leur histoire est vraie, je me fais chier. Il n'a pas dit ça ?
Il était plus poli que toi.
Il a été plus poli que moi.
Un petit peu moins près.
Il a dit, quand on voit bien quand un conteur, il ne croit pas que son histoire est vraie. Et c'est vrai que, en tout cas, moi, je peux témoigner. Des fois, je raconte bien, des fois, je raconte mal. Ce n'est pas ça le problème. Mais en tout cas, c'est sûr que je crois toujours à mon histoire. Je suis sûre qu'elle est vraie. Quelquefois, je la comprends chemin faisant. Et quelquefois, j'en comprends un aspect à un moment. Et puis, un an plus tard ou 10 ans plus tard, j'en comprends autre chose. Mais dans tous les cas, c'est vrai. Et ça agit sur moi. Et ça agit sur les gens qui écoutent. Et j'écoute une histoire. Tout à l'heure, j'écoute Claire. Et puis, à un endroit, ça me donne envie de pleurer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas.
Thank you.
Est-ce qu'on peut dire que le conte merveilleux et peut-être d'autres aussi formes de contes finalement sont des occasions d'ouvrir des portes nouvelles vers son univers intérieur, mais peut-être...
Du coup, ça appartient à l'expérience personnelle de chacun. Moi, je peux dire que c'est vrai en ce qui me concerne. Je sais que c'était une discussion entre conteurs, et donc je pense que c'était Catherine Sarcat qui disait, mais les contes, on les raconte, c'est pas pour faire du bien aux autres, c'est parce qu'on en a besoin soi-même. On a besoin de... Donc déjà, commencer par ça, en fait. Donc, après, quelle porte ça va ouvrir? Heureusement, ça échappe quand même un peu à la... C'est pas parce que je te raconte ça que ça va ouvrir ça chez toi, et que je te raconte ça. C'est pas comme ça que marche la nature humaine, en fait. Tout l'inconscient et tout ce dont on est chargé, qu'on n'a pas encore mis à jour.
Ils sont très riches, ces histoires-là, elles sont très riches, elles résistent à toute interprétation. À chaque fois qu'on a essayé de se servir des contes pour faire quelque chose, on s'en sert, les instits s'en servent, les psychologues s'en servent, et ça peut être très utile, hein. Mais je trouve que ça dépasse toujours un peu ça. C'est plus large, quoi. C'est plus large que ça. Ça ouvre des portes, mais on ne sait jamais lesquelles et on ne sait jamais à quel moment. Et pour moi, les contes merveilleux, je disais ça l'autre jour, c'est vraiment comme... C'est aussi magique qu'un papillon. Ça vole, tu te demandes pourquoi et comment et qu'est-ce que c'est que ces couleurs fantastiques. Si tu agrafes ton papillon sur
Tu veux dire qu'en fait, le conte merveilleux, c'est fragile. Enfin,
c'est fragile et c'est délicat.
De disséquer son fonctionnement.
Bah non.
Parce qu'à partir du moment où on dissèque le fonctionnement de quelque chose d'aussi merveilleux que le conte merveilleux,
et à chaque fois que j'ai entendu quelqu'un disséquer un conte, ça m'a fait aussi mal que si tu prends un ange et que tu le plumes. Tu prends un ange et puis tu fais une autopsie. C'est dégueulasse. Bon, mais je trouve ça assez dégoûtant. De disséquer un conte merveilleux.
Surtout, ça résiste un peu. C'est un peu comme... je sais pas, il y a quelque chose à voir avec... pour moi, j'ai bien parlé en mon nom, parce qu'il y a toujours des visions différentes du monde et de la compréhension des choses. Et chaque parcelle est une parcelle d'une vérité globale qui, évidemment, échappe à... Personne ne tient ça, quoi. Mais ça parle de... Ça parle de l'invisible aussi, ça demande... l'invisible, en fait, on est tout le temps en contact avec l'invisible. Là, en ce moment, on communique avec des ondes en permanence. Elles ne sont pas visibles et pourtant, on est absolument connecté en permanence avec ça. Enfin, l'invisible existe, évidemment.
Un avion nous survole.
L'amour est quelque chose qui est aussi impalpable que... Et ça existe et ça parle de cette matière-là, en fait, hein, qui est une matière... Qui est la matière, je dirais, c'est la matière même de la vie. La matière, elle est autour de ça, ou en dessous, ou en dessus, mais c'est ce qui fait que la vie est vivante. Sinon, on a des tables et des chaises, point, quoi. Et des robots.
Bonjour. Je suis Blanca Flor. Tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu cherches?
Ben, je cherche El Castel de Iras y No Volveras, tu connais?
Ben oui, c'est le château de mon père, l'enchanteur. Tu as bien fait de m'appeler. Je vais t'aider. Quand tu iras au château, ne te laisse embrasser par personne sous peine d'être changé en pierre. Quand on te voudra te faire asseoir, demande un simple tabouret de bois sous peine d'être brûlé vif. Et si on se voit au château, on ne se connaît pas. Si tu as besoin de moi, dis juste « Blanca Flor, j'ai besoin de ton secours » et je viendrai. Et puis, elle a disparu.
Lui est remonté sur le cheval, puis il est allé jusqu'au château. J'ai avancé vers la porte de l'entrée et puis, juste comme il arrivait, il y a l'enchanteur qui est sorti et derrière lui, il y avait sa femme et ses trois filles. Et j'ai avancé, il a dit « Ah, tu as bien fait de venir, j'allais venir te chercher. » Le prince a dit « Bah, c'est pas la peine, je suis là. » Et puis, les filles de l'enchanteur se sont approchées et elles se sont avancées pour lui faire la bise. Il a dit « Ah non, chez moi, on n'embrasse pas les jeunes filles. Bonjour, mesdemoiselles. » Et puis la femme de l'enchanteur s'est approchée, elle a voulu aussi le... Il a dit, ah non, les femmes non plus, bonjour madame. L'enchanteur l'a regardé un peu en coin comme ça, il a dit, ah bon, c'est comme ça chez toi. Rentre, je t'en prie. Tiens, assieds-toi là, c'est un siège pour les invités. C'est un magnifique trône en or avec des pierres. Il a dit, ah non, c'est un peu trop beau pour moi, vous n'auriez pas un petit tabouret en bois tout simple? Bah, non, t'es bizarre, toi. Alors, il lui a donné un tabouret en bois. Puis le prince s'est assis, il a dit, bon, bah écoute, voilà comment ça se passe. Hein. Tu as 3 épreuves à accomplir. Si tu y réussis, tu es libre. Si tu en rates une seule, ta vie m'appartient. Et puis, il s'est levé, il est allé vers la fenêtre qui donnait par là et il lui a dit, viens voir. Ta première épreuve, c'est là, demain. Tu vois, ce champ de cailloux, c'était pas des cailloux, c'était des énormes blocs de granit. Il a dit, je t'emmène là demain matin, tu as la journée pour enlever tous ces cailloux, semer du blé, le récolter, faire la farine, et le soir, tu viens me trouver avec un pain que tu auras fait avec la farine que tu as... Le prince, il a fait comme Anne-Gaëlle, il a fait... Non, mais personne ne peut faire ça. Et l'enchanteur, il a regardé, il a dit, ah oui, personne ne peut faire ça. Ben, ta vie m'appartient. Bon, le soir, tout le monde est allé se coucher. Lui, il n'a pas trop bien dormi. Le lendemain matin, on l'a emmené dans le champ de blocs de granit et puis on l'a laissé là. Puis il s'est dit, bah, c'est peut-être pas des vrais cailloux. Alors, il a essayé de les pousser, mais... C'était des vrais cailloux. La seule chose qu'il a pu faire, c'est de ramasser une pierre qui était grosse comme ça et encore... Il a reposé, il s'est assis dessus. Il allait se mettre à pleurer quand il s'est rappelé de ce que lui avait dit la jeune fille. Alors il a dit comme ça, Blanca Flor, j'ai besoin de ton secours. Et à peine il avait dit ça que Blanca Flor, elle était à côté de lui. Elle a dit, ben alors, qu'est-ce qu'il t'a demandé mon père? Eh ben, il veut que j'enlève tous ces cailloux, que je sème du blé, que je le récolte, que je fasse la farine et que je lui apporte un pain que j'aurais fait avec ça. Et Blanca Flor, elle le regarde, elle dit, oh, ça c'est pas difficile, écoute, je m'encharge. Dis donc, t'as mal dormi, hein, t'as mauvaise mine. Écoute, repose-toi là sous l'arbre, je m'en occupe, prends des forces, ça va pas toujours être facile comme ça. Alors lui, il s'est installé sous un arbre et Blanca Flor, elle s'est mise au boulot. Elle prenait les cailloux, fiou, 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 elle a enlevé toutes les pierres comme ça, elle a labouré, elle a semé le blé d'un geste, fiou, elle a fait chauffer le soleil, elle a moissonné, elle a pété, puis lui, il s'est endormi pendant ce temps-là. Puis le soir, elle l'a réveillée avec un pain tout chaud qu'elle avait préparé. Elle lui a dit, tiens, voilà le pain. Va au château. Mais si on se voit, on ne se connaît pas.
Sobretudo o cobertor do teu olhar varreu meus olhos e do teu olho joio uma gota de orvalho que era vidro se quedou vivendo um despedaço e o coração coador sorriu vexado de amargor e se pintou a correr thank you. solidão andar de muda. Sei pra sempre te amarei. Procurei por essas curvas que no tororó deixei.
Sur la langue de la bête de scène, il y a du vent. Et une des conteuses s'est cassée la voix en spectacle la veille, mais on est bien là. Hein. Avec Claire Garrigue et Angèle Goduchaud, il est question du conte merveilleux.
On a souvent tendance à dire que les contes, et surtout les contes merveilleux, comme les rêves, on dit qu'il y a la réalité d'un côté, non ? Il y a la vie, la réalité, le concret. Et puis de l'autre côté, il y a les rêves et il y a les contes. C'est bien d'y aller de temps en temps, mais n'y allez pas trop parce que vous risqueriez d'y rester coincé, non ? Comme si c'était des choses très différentes. Et irás y no volverás. Et en fait, on en revient du château, tu vois ? Avec une princesse.
Il vaut mieux aller voir.
Très bien. En fait, il faut y aller.
Alors, c'est ce que disent les contes d'ailleurs. En général, il faut y aller. À l'endroit interdit et d'où on ne revient pas, il faut aller voir et on n'en revient plus riche.
C'est ça. D'ailleurs, braver l'interdiction, aller plus loin que ce qu'on nous avait
l'apparence
dit, que l'apparence des choses, aller faire corps, aller se bagarrer avec ses... Ouais, t'as raison, avec ses peurs. C'est quelqu'un dans le public qu'on n'entend sans doute pas dans l'émission, mais qui est...
Quelqu'un qui parle des peurs dans le public, voilà. Un très joli sourire qui nous parle des peurs. Bah. C'est vrai que dans les contes merveilleux, il y a toujours beaucoup de souffrance. Il y a quand même beaucoup de malheur.
Oui, on va dire malheur, dans les contes merveilleux. Souffrance.
Ouais. Voilà, donc c'est aussi pour ça que les gens ne comprennent pas tellement, finalement, en entendant finalement, un certain nombre d'horreurs, quelquefois, de choses horribles hein, qui se passent dans les contes merveilleux. Pourquoi le conte, on le dit merveilleux ? Mais en fait, c'est parce que ce conte-là, il est merveilleux dans la mesure où il apporte des éléments...
Oui, et qui se placent sur un autre plan, encore une fois, que la réalité pragmatique. C'est comme si ça, ça change de plan, de fonctionnement, en fait.
Puis c'est merveilleux parce que ça dit, je trouve, en tout cas concrètement, je trouve que la vie, c'est un truc merveilleux. Enfin, tous, on peut en témoigner qu'on a tous vécu des trucs, des moments pas marrants. Et puis, on passe par-dessus, on passe de l'autre côté, du miroir, de la rivière, du truc. Et puis, on s'aperçoit qu'on y a gagné quelque chose, qu'on en a rapporté quelque chose, qu'on s'en sort. Ça, c'est merveilleux, on peut dire, la ressource qu'on a. Et donc, ça dit ça aussi. Un héros, franchement, un conte où il y aurait un héros, c'est l'histoire d'un garçon... Il avait un papa gentil, une maman gentille, il s'amusait très bien avec tous ses copains et tout allait très bien.
Voilà. Quel était son secret?
Non mais il n'y a pas d'histoire.
Vous rajoutez à la fin un cri qui craque.
C'est pas grave, c'est bien.
C'est fait, c'est emballé, c'est pesé.
Non mais il n'y a pas d'histoire, voilà. Tu vois. Tu ne deviens pas un héros comme ça.
Alors, j'ai lu une jolie phrase que j'ai retenue et que je vous redonne là. Quelque chose qui dit « Le merveilleux frappe l'imagination et quand une fois elle est gagnée, l'imagination, on ne se sert plus de son jugement. » Voilà, c'est-à-dire on passe dans un autre plan. C'est un peu ce que tu disais là tout de suite.
Finalement. Ben oui, si ça résiste pas, le conte merveilleux, il résiste pas à la critique, par exemple, sociologique. C'est naze un conte merveilleux, enfin, je veux dire... Toutes les princesses, elles attendent, les princes, ils sont tous une épée à la main. Ça n'a aucun intérêt. C'est pas là que ça se passe, en fait. Et c'est pas qu'il faut changer l'histoire, c'est qu'on change la fenêtre par où on regarde. C'est comme dans... Il y a deux mots, par exemple, pour dire la vue et la vision. Pour dire l'ouïe, entendre, et l'entendement, le toucher subtil. C'est ce prolongement-là des sens que ça vient solliciter. Mmh. Je vois ça comme ça. Ouais. Et qu'on a tous, mais souvent c'est au repos, enfin, dans la vie.
Quand on rêve, d'une certaine manière, on fabrique des petits bouts. Et d'ailleurs, très souvent, les gens, quand ils rêvent, ils rejoignent des archétypes ou des grandes figures qui ressemblent aux figures des contes merveilleux aussi.
Donc tout ça a besoin d'être expliqué, puisqu'en fait, le conte merveilleux semble par moments une discipline, enfin, le conte merveilleux, une discipline un peu dépassée, des choses un peu obsolètes, des histoires de vieilles sorcières et de...
Le cinéma s'y trompe pas, hein, parce que ces dernières années, la production cinématographique et de dessins animés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Blanche-Neige, c'est sûr.
Blanche-Neige, Réponse.
Réponse, cette fille à volants cheveux. Hein. Et puis après, ils s'attaquent aussi à La Reine des Neiges.
Poudin,
c'est un conte merveilleux. Poudin, t'as raison. Rebelle, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, mais sans doute, oui. Puis après, toute la mythologie. C'est vrai qu'on a... Les conteurs délaissent un peu, sans doute, le conte merveilleux, parce que c'est délicat. Ou bien
c'est
ont tendance
subtil,
à le... Quelquefois, à le rendre...
Le détourner, en fait.
À le détourner, d'une certaine manière. Mais le cinéma s'y trompe pas. Les grands films à succès, en ce moment, c'est des films qui sont basés sur le conte merveilleux et aussi sur la mythologie.
Oui. Bon, viens, la deuxième épreuve, c'est par là. Il emmenait le prince à la fenêtre qui donnait par là. Par la fenêtre, on voyait une immense forêt avec des arbres gigantesques. Il fallait 6 personnes pour faire le tour de chaque arbre. Et il a dit, demain matin, je t'emmène là, tu enlèves toutes ces branches-là, tu plantes de la vigne, et le soir, je veux du vin nouveau avec la vigne que tu auras plantée. Bon, là, le prince, il n'a rien dit. Hein. Le soir, tout le monde est allé se coucher. Et lui, il a beaucoup pensé à Blancaflor. Beaucoup. Le lendemain matin, on l'a emmené à la forêt. On l'a laissé là tout seul avec une hache
Quand tout le monde a été parti, il a pris la hache, puis il a essayé d'abattre un arbre avec sa hache. Puis il l'a posé, il a dit... Blanca Flor, j'ai besoin de ton secours. Et aussitôt, Blanca Flor était là. Il a dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a demandé, mon père, cette fois? Il a dit, bah, il veut que j'enlève tous ces arbres, que je plante de la vigne et que le soir, je lui apporte du vin nouveau avec le raisin qui aura poussé sur la vigne. Et elle a dit, oh, ça va. Écoute, hein, faut que tu te reposes, hein, parce que t'as mal dormi. Hein. Allez, installe-toi là, je m'en occupe. Elle a installé à l'ombre, puis il l'a regardé travailler. C'était génial à voir. Elle prenait les arbres par une petite branche. Tchou, 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 tchou. Elle labourait, plantait la vigne, elle a fait chauffer le soleil. Lui s'est endormi, il était fatigué. Puis elle a réveillé le soir avec une coupe de vin nouveau qu'elle avait fait. Elle lui a dit, tiens, va au château. Et si on se voit, on se connaît pas. Il a pris la coupe de vin, il est allé trouver l'enchanteur, il a dit, voilà, le vin, tu vas peut-être me faire croire que tu as fait ça tout seul. Tu es plus sorcier que moi, toi, hein? Le prince, il n'a rien dit, hein? Au fond de la pièce, il y avait les trois filles, elles étaient en train de broder des petits mouchoirs. Blanca Flor, a ti que te parece? Blanca Flor, elle a regardé son père, elle avait un sourire clair comme une source. Et elle a dit, nada, Pablo, nada. Et l'enchanteur, il n'a pas annoncé la troisième épreuve. Le soir, le prince s'est couché, il n'était pas trop rassuré. Hein. Il a beaucoup, beaucoup pensé à Blanca Flor, il s'est dit que ça allait aller, quoi. Puis le lendemain matin, l'enchanteur, il a emmené le prince au bord de la mer. Vous voyez la mer? L'immensité de la mer. Et il lui a dit, voilà, j'ai perdu il y a 100 ans au fond de cette mer l'anneau de la grand-mère de ma grand-mère de ma grand-mère. Tu le retrouves et ce soir, tu me le rapportes. Bon, franchement, ça, ou faire du blé, du pain avec le... ou le vin, enfin, c'était pareil, quoi. Donc, il n'a rien dit. Il a laissé partir l'enchanteur. Puis, quand l'enchanteur a été parti, il a dit... Blanca Flor, j'ai besoin de ton secours. Et à peine il avait dit ça que Blanca Flor, elle était là. Et elle a dit, alors qu'est-ce qu'il t'a demandé, mon père? Eh bien, il m'a demandé de retrouver au fond de la mer l'anneau de la grand-mère de sa grand-mère qu'il avait perdu il y a 100 ans. Et là, Blanca Flor, elle est devenue toute pâle. Et elle lui a dit, il t'a demandé ça. Ça veut dire qu'il se méfie de moi. Tu as confiance en moi? Bah, oui, Blanca Flor. Alors il va falloir être très courageux. Puis elle a sorti de sa poche un petit couteau et une petite bouteille en verre. Elle dit, voilà. Tu prends le petit couteau, tu me le plantes dans le cœur. Le sang qui coule, tu le mets dans la petite bouteille. Tu fais bien attention qu'il n'y ait pas une goutte qui tombe par terre. Puis quand elle est pleine, tu la jettes au milieu de la mer. Quoi? Tu prends le petit couteau, tu me le plantes dans le cœur, le sang qui coule, tu le mets dans la petite bouteille. Tu fais bien attention qu'il n'y ait pas une goutte qui tombe par terre. Et puis quand la bouteille est pleine, tu la jettes au milieu de la mer. Comment? Tu prends le petit couteau, tu me le plantes dans le cœur. Le sang qui coule, tu le mets dans cette petite bouteille. Tu fais bien attention qu'il n'y ait pas une goutte qui tombe par terre. Quand elle est pleine, tu la jettes au milieu de la mer. Le Blanca Flor, je ne peux pas faire ça. Mais si, tu peux le faire. Mais si, tu vas le faire, parce que je te le demande. Tu vas le faire, parce que si tu le fais pas, on est morts tous les deux. Tandis que si tu le fais, moi j'ai le pouvoir qu'on ressuscite et qu'on reste vivant, alors tu vas le faire. Alors le prince, il a pris le petit couteau, il l'a planté dans le cœur de Blanca Flor. Le sang qui coulait, il l'a mis dans la petite bouteille, mais sa main a tremblé, il y a une goutte de sang qui est tombée par terre, juste une goutte. Mais quand la bouteille a été pleine, il l'a jetée le plus loin qu'il a pu dans la mer. Et à ce moment-là, il y a une grande brume blanche qui s'est levée au-dessus des flots. Et tout d'un coup, et Blanca Flor était à côté de lui. Et elle tenait l'anneau.
Holly came from from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Conteurs comme Paul Lator, par exemple, qui est une conteuse que les deux conteuses qui sont sur le plateau connaissent bien.
Puis des Paul gens Lator, ici aussi, parce qu'elle était en résidence toute l'année dernière ici.
Paul Lator dit que dans le conte merveilleux, beaucoup de conteurs pensent que c'est important parce que le conte merveilleux porte en lui des valeurs de courage, des valeurs de solidarité. Et des valeurs aussi en rapport avec la nature. Voilà.
C'est-à-dire que Paul, faut préciser, elle est conteuse, mais elle est aussi une grande militante anti-nucléaire, pour l'écologie. Chez elle, il y a un grand poster que je trouve merveilleux qui dit « Nous ne sommes pas des gens qui défendons la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Je trouve ça très joli comme manière de dire les choses. Ouais, je l'ai entendu souvent dire ça, ouais. Qu'on vit en ce moment, mais il y a eu d'autres époques comme ça, les gens souffrent beaucoup, socialement, et que le conte merveilleux, aujourd'hui, il peut servir à se donner du courage, ne serait-ce que ce qu'on fait là, On a passé une heure à écouter des histoires ensemble, ça fait du bien, non? Là, je vois le public qui acquiesce. Ça fait du bien.
Dans le public, qu'on pose une question. Vous vous appelez?
Claire. Donc Claire nous dit, voilà, on a écouté des contes tout à l'heure racontés par Claire Garrigue. Ça fait du bien. Est-ce que c'est pas davantage finalement pour
eux,
ou autant ou moins pour le public adulte finalement? Qu'est-ce que vous en pensez, Claire, toi, par exemple?
Moi, je trouve que ça s'adresse. Ce que j'aime bien dans ce registre-là, dans ces contes-là, c'est que je trouve que ça s'adresse à tous, on va dire les enfants à partir de 7-8 ans, mais des fois il y a des plus petits qui en attrapent des choses.
Et que chacun, elle était tout à fait fascinée.
Voilà,
tout
et que chacun peut attraper ce dont il a besoin selon là où il en est. Et moi je sais que je ne les travaille pas spécialement pour les enfants, mais je n'ai jamais travaillé les contes de cette manière-là. J'ai travaillé pour ceux qui sont en tant que tel, et puis chacun va, mais que ça soit, que chacun puisse y puiser ce dont il a besoin. Et ça, moi, je l'ignore. Chaque personne qui vient, je ne sais pas de quoi elle a besoin. Mais je propose cette histoire, j'essaie de la servir le mieux possible, c'est-à-dire qu'elle soit, puissante dans ce qu'elle convoque comme force, comme image, comme que ça soit irrigué de vitalité, on va dire, pour que ça puisse faire ce qu'elle a à faire, quoi. C'est vraiment comme ça. Voilà. C'est pas
pour
les enfants.
C'est pas que pour les enfants, ça, c'est sûr.
Oui, c'est ça.
C'est sûr.
Oui,
c'est et c'est vrai, les... en effet, on peut y puiser du désir de vivre, de l'émerveillement. Mais quand même, franchement, rien que ça.
Pour moi, les contes, mais c'est pas la seule chose, évidemment, c'est que ça sert à alimenter la vitalité, ça nourrit les forces de vie, celles dont on a besoin pour dépasser, pour traverser les choses qui ne manquent pas de nous arriver, parce que la vie c'est comme ça, et donc ça nourrit notre vitalité.
Je suis d'accord, je vote pour toi.
Olivier, un membre du public.
Oui, juste, moi je voulais rattraper sur ce que tu dis, c'est-à-dire que l'histoire de ces forces et de la façon dont on les résout à l'intérieur de nous. Et c'est tellement un langage qui est peu courant, qui n'est pas à l'ordre du jour en ce moment. Tout le temps, dans le quotidien, on nous rabâche, on nous harcèle, on nous bourre le crâne avec cette idée que la solution, elle est toujours à l'extérieur.
Et on peut l'acheter.
Et on peut l'acheter à
chez
bon
Auchan.
Marché. C'est encore moins cher. Et tout est à l'extérieur, la météo, la médecine, le sport, enfin, tout.
Le bonheur sur Amazon.
Le bonheur, c'est à l'extérieur. Et que nous, on ne peut rien du tout. Que l'individu ne peut rien. Et alors, alors profondément, là, je parle pour moi aussi, je pense que c'est exactement le contraire. Là, d'ailleurs, le sourire des gens et le bonheur intérieur de chacun ne dépend pas de l'environnement. On voit qu'il y a des gens qui sourient dans tous les pays, même les plus pauvres, et des gens qui se suicident dans tous les pays, même les plus riches. Donc profondément, ce n'est pas le contexte extérieur qui fait le cheminement intérieur. Ça rend les choses quelquefois plus faciles, mais c'est quelque chose de très différent. Et donc, c'est juste pour dire que ces contes-là, je pense qu'ils... Ils sont en train de réveiller, ces contes merveilleux, ils sonnent là parce qu'ils sont en train de réveiller une fibre en nous qui se souvient que oui, il y a un chemin intérieur. Enfin, on a une vie intérieure et on a du pouvoir. Et effectivement, je suis convaincu que nous sommes les seuls à pouvoir faire quelque chose pour nous-mêmes. Personne d'autre le fera à notre place.
Merci Olivier, merci beaucoup.
Ça veut dire que c'est révolutionnaire. En fait, un conte merveilleux, on a souvent décrit les contes merveilleux comme un truc vieillot. C'est des mamies. Pardon, les mamies qui sont là.
Moi, je suis une mamie. Hein.
Ah. Mais ça serait un truc raconté, des vieilles histoires, pas très intéressantes, racontées à des enfants un peu débiles, non? Mais souvent, on a dit ça. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de résolument vivant, moderne et même révolutionnaire. Oui.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en France un renouveau du conte depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Et vraisemblablement, que c'était cette difficulté aussi à vivre dans la société moderne, est une société de l'extérieur, Olivier vient de nous le dire très bien, les gens vraisemblablement que nous sommes tous ont besoin d'intériorité, ont besoin de ressentir des émotions à eux et pas des émotions qu'on voit sur les écrans ou qu'on voit ailleurs, ou les émotions des autres. Hein, parce qu'on regarde l'émotion des autres, on regarde la beauté des autres, on regarde la bagnole d'autrui, on regarde... voilà. Mais de regarder vers soi, quoi, vers son intériorité. On peut se faire du bien avec les histoires, je crois, Angel, tu sais qu'on peut se faire du bien avec les histoires.
C'est une question.
Oui, non mais bien.
Préciser.
Par exemple, est-ce que par le biais d'histoires, en travaillant l'imaginaire, on peut se soigner, par exemple? Est-ce que je parle de thérapie là? Je parle de...
Ah oui. C'est une autre casquette,
de
ça.
De maladie.
Oui, parce que là, tu fais référence au fait que, à côté de mon travail de conteuse, je suis aussi hypnothérapeute et donc je travaille avec l'imaginaire des gens, l'imaginaire que les gens apportent. Et bah, en effet, bien sûr, avec notre manière de nous représenter les choses, on peut se faire du mal. Si j'imagine que mon examen, là, que je vais passer dans 2 jours, quand je vais me poser sur la chaise, je vais avoir les miens moites, les pieds pointes et la respiration qui commence à... Et que tout d'un coup, mes idées vont se mélanger et que je vais rater, il y a des chances que
ça marche.
Ça marche.
Tu dis quelquefois que les gens que nous sommes, hein, ont beaucoup d'imagination pour
bah, aller entraîner, surtout à ça, à prévoir le pire.
Beaucoup d'imagination, à prévoir le pire, à s'entraîner à... Et comme, bon, quoi, finalement.
Et comme dit Claire, qu'est-ce que c'était ton proverbe hier soir?
Ce que tu veux, tu l'auras.
Ce que tu veux, tu l'auras.
Malheureux.
Ce que tu veux, tu l'auras. Ce que tu imagines, tu l'auras.
C'est presque aussi beau
si
que
tu
ça,
penses
ça, c'est un vrai
que,
conte de fées, ça.
Si tu penses que tu vas y arriver, ouais, t'as raison. Si tu penses que tu vas pas y arriver, t'as raison.
Si tu penses que la paix est possible dans le monde, elle a plus de chances d'arriver que si tu penses que c'est pas possible. Ça,
voilà,
c'est sûr.
C'est ça.
Donc, faut s'entraîner.
Voilà, c'est un peu modeste, mais ce qu'on fait avec les contes, c'est ça. Mm. C'est de travailler avec dans ce monde-là, de l'imaginaire, qui est.
Ouais. D'autres interventions dans le public.
Je repense à Alice qui a un conte initiatique.
Alice au pays des merveilles.
Au
pays des merveilles, qui est un conte. Bah oui, on passe de l'autre côté du miroir, et en effet, de l'autre côté du miroir, c'est une autre réalité. Mmh. Ouais. Ouais. Oui, on peut dire que c'est un conte initiatique en effet.
Les contes merveilleux, ça pourrait être un de leurs autres noms d'ailleurs. C'est tous des contes initiatiques en fait. Contes merveilleux.
Ouais. En tous. Fait, c'est tous des contes initiatiques. Ouais.
Bien, on va se quitter sans doute sur ces. À moins que Claire veuille rajouter quelque chose ou Angel. Je crois que c'est difficile de parler du conte merveilleux, vous voyez, parce que c'est effectivement les ailes de papillon dont parlait Angel tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelque chose de sensible, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cerner très très facilement, quoi, comme ça. Vraisemblablement, c'est plus quelque chose qu'on ressent.
Qu'on ressent, c'est qu'on ça. Ressent. C'est que ça s'adresse, enfin, je trouve que c'est d'ailleurs la force de ça, c'est que ça s'adresse au ressenti et à une certaine vision d'un monde qui serait dans sa globalité, ça échappe à la pensée analytique, ça marche par une autre façon, c'est plus par imprégnation presque. C'est un monde qui a des bosses, des creux, des plis, des replis, des souterrains, ça ne se limite pas à une surface plane et
des courants en souterrain.
Voilà, et qui est entièrement géré, gérable et qu'on peut ça s'adresse à toute cette partie-là qui est vivante en fait, qui est comme une danse, hein, et donc ça s'adresse à tout ça, voilà. Et ça fait du coup ça fait appel à cette perception-là aussi pour les écouter. Il faut lâcher un peu son côté analytique, quoi.
Quelqu'un du public prend la parole.
On t'entend pas, du coup je retraduis pour le micro. Donc tu dis que tu as peu l'habitude d'assister à une racontée et qu'il y a une vraie différence entre lire un conte et recevoir un conte, parce que là il y a quelque chose de l'ordre de la transmission.
De la vibration.
De la vibration.
Vivante.
Un ange.
C'est une émission
métal,
sponsorisée par Notre-Dame-des-Landes.
Non. Non mais c'est vrai que y a dans le fait de raconter, il y a celui qui raconte, il y a celui qui écoute, il y a le conte lui-même, et puis la relation entre tout ça. Et c'est aussi ce qui fait que c'est très différent à chaque fois, que chaque personne reçoit des choses différentes en écoutant la même histoire, que à chaque fois qu'un conteur raconte une histoire, c'est comme s'il ouvrait des portes différentes aussi dans son monde et dans son imaginaire, et il aperçoit des paysages différents. Enfin, et ça n'est vrai que parce que vous êtes là, parce qu'on est là, et qu'il s'agit d'une chose vivante. Ouais.
Et que c'est fait. Merci pour cette intervention, parce que c'est très important. C'est-à-dire que c'est un contenu qui est fait pour être proféré, qui est actif quand il est proféré. C'est un peu comme quand on le lit, c'est comme une partition de musique. Si on n'est pas soi-même musicien, on lit la partition, on n'entend pas la musique. Il faut être très très entraîné pour l'entendre devant la page, en fait. Je me souviens, j'avais travaillé une fois avec une musicienne et je lui passe un conte à lire. Je voulais qu'on travaille sur cette histoire-là. Et elle me dit « Oh, bof, ça me dit rien ton truc ». Puis en fait, je lui dis « Comment ça t'a pas plu ?» Puis je commence à lui raconter et elle me dit « Ne me fais plus jamais lire de contes, raconte-les-moi !» C'était tout d'un coup, elle a entendu, mais dans le livre, c'est un langage très simple, c'est pauvre, c'est pas un objet littéraire tellement intéressant. Enfin, on voit plus que les grosses lignes, c'est assez grossier. Et c'est comment tout ça, on va le mettre en ville, faire vibrer, c'est ce que tu dis. Voilà, ouais. C'est ça. C'est aussi ce qui est passionnant, dans le fait d'être conteur, c'est on part de ça. Puis on a une espèce de carcasse à laquelle il faut donner chair et vie. Et en plus, ça se nourrit de ce que chaque conteur va lui apporter. Ça se nourrit de tout ce qu'on va donner de nous. Donc ça nous sollicite et ça nous rend tout le temps. Et ça fait la même chose avec celui qui écoute. En fait.
J'ai souvent eu cette... J'ai souvent eu cette impression-là de... Tu sais, comme quand tu trouves un coquillage sur la plage. Alors tu peux le prendre et puis le regarder et puis dire « Regardez comme il est beau », tu peux le décrire, tu peux en faire une étude analytique de comment c'est fait, tout ça. Puis tu peux aussi rentrer dedans et te plier à cette coquille et voir quelle est la vie qui habite ça. Ben, je trouve que c'est ça, enfin, pour moi en tout cas, ça pourrait ressembler à ça d'entreprendre l'apprivoisement d'une histoire, c'est que je rentre à l'intérieur de cette coquille et puis je me dis « Ah, quelle est la vie qui traverse ce truc et comment je peux rendre compte de ça ?»
Elle est forte, Amélie. De la métamorphose.
Bien, merci à tous.
Merci.
Et donc, vous pourrez écouter cette émission dans les quelques mois de l'année qui vient. Ça sera monté par l'équipe de la ligne rouge et redonner sur cette étape.
On doit s'arrêter parce que maintenant c'est le moment des scènes ouvertes et il y a des gens qui se sont préparés pour raconter, pour chanter. Il y a une jeune fille qui a son téléphone portable avec sa bande son et qui est sur les starting blocks pour...
I have a dream. A dream. A dream.
C'est pas pour dire, enregistré en public et en plein air, eh bien c'est fini pour aujourd'hui. Si cela vous a plu, vous pouvez écouter d'autres émissions sur c'estpaspourdire.fr et nous écrire aussi sur la page Facebook du même nom dédiée à l'émission. En attendant, salut à vous tous.